L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Bonjour.
Merci, bonjour. Oui.
Ça va bien ?
Oh, très bien.
Innocent III, on en était, Saint-Dominique, l'Inquisition.
Innocent III qui reconnaît parfaitement le droit des Juifs à être tel que et devant être respecté. Bon. Alors, il est à souligner un constat qui est le fait que si le thème accusateur de déicide fut celui retenu par le bas clergé, j'insiste là-dessus, et le peuple, il le fut sensiblement moins. J'ai pas dit qu'il ne l'était pas. J'ai dit qu'il était sensiblement moins par les intellectuels du clergé qui préférèrent discerner une distinction entre un judaïsme nécessaire comme porteur de la parole divine durant la période historique antérieure à la venue du Christ et un judaïsme qui, à leurs yeux, alors là, j'ai bien à leurs yeux, devenu obsolète après la venue du Christ. De ce changement de données, les intellectuels chrétiens tirèrent l'idée que mieux valait sauver les âmes des Juifs en les convertissant au christianisme que de les poursuivre et de les persécuter, comme déjà cela avait commencé en bien des endroits. L'étude historique des écrits de théologiens et intellectuels chrétiens médiévaux laisse transparaître un désaccord entre eux et le bas clergé. Les représentants des pouvoirs politiques, financiers, seigneuriaux et autres, les premiers préconisant une conversion en douceur, les seconds par la violence. Il y eut à ce niveau une dissension entre les deux conceptions des rapports entre juifs et chrétiens qui n'a pas été assez relevée par les historiens par la suite. L'accusation de déicide trahit donc bien un état d'esprit d'un champ précis relativement délimité dans une sphère socio-religieuse précise comme nous l'avons vu. Le plus intéressant à relever est le fait de constater ce qui fit le fondement des persécutions qui commençaient depuis un certain temps déjà entre les Juifs, ce fut la peur. Peur basée sur l'ignorance, ignorance d'ailleurs réciproque, conduisant les deux camps à des attitudes de méfiance inappropriées. Ainsi, par exemple, Louis IX, appelé Saint-Louis, roi de France qui fut canonisé en 1297 par le pape Boniface VIII, qui eut, rappelons-le, à subir la gifle d'Agnani, donnée par Guillaume de Nogaret de la part de Philippe le Bel, fut célèbre pour sa justice sous les chaînes, et sa sainteté. Mais, disons-le, ne brilla pas par une culture extraordinaire et connut de terribles échecs, dont le dernier lui fut fatal, puisqu'il fut tué en 1270 à Carthage en Tunisie, lors de sa croisade, dont il espérait la conversion du très musulman sultan de Tunisie au christianisme. En France, Louis IX, Saint-Louis, eut une gestion de la question juive très partisane et sectaire. Il mit tout en œuvre pour restreindre au maximum les rares droits des Juifs et réduire un éventuel rayonnement de leur culture et bien sûr de leur théologie et de leur exégèse biblique du Talmud. Ce fut particulièrement visible à Paris lors de la controverse qui eut lieu en 1240. Cela fut tellement flagrant que bien des théologiens chrétiens se désolidarisèrent même de sa démarche, même si par ailleurs, ils l'approuvèrent en d'autres domaines. C'est toujours Louis IX qui obligea les Juifs à porter la rouelle, préfigurant la sinistre étoile jaune, tristement célèbre. À ces mesures, s'en ajoutèrent d'autres non moins restrictives, telles celles, par exemple, d'interdire aux Juifs de prêter de l'argent en pratiquant le prêt à intérêt sous prétexte qu'en principe, ce dernier mode de prêt était interdit aux chrétiens.
C'est un bon plan aussi pour les chevaliers croisés qui avaient emprunté pour s'armer et qui n'avaient pas remboursé pour le coup.
Mais c'est d'ailleurs pour ça que finalement on a fermé les yeux sur le, on va dire, les Juifs qui pratiquaient le prêt à usure, je vous l'ai dit dans une dernière émission, et que on les a, pour finir, on leur a autorisé ce prêt à usure. Ça permettait de blanchir l'usure de certains chrétiens financiers.
Oui, il y a des phrases de Godefroy de Bouillon qui disaient qu'en partant aux croisades, il ne laisserait pas vivant aucun juif derrière lui. Hein, nos héros de l'histoire de France. Là.
Et voilà, justement, hein, pas tous des saints, nos héros. Alors, pensez par certains conseillers ecclésiastiques plus avisés que lui, eh bien, le roi tenta de limiter les conséquences de ses erreurs de jugement en essayant d'instaurer pour les Juifs une politique de reclassement social leur permettant de pratiquer un artisanat. Le problème fut que cette mesure fut vouée à l'échec car les structures socio-économiques du pays conduisirent cette vague tentative à l'échec quasi total. Prit-il soin de consulter ses conseillers financiers? Question. Si oui, eh bien, son attitude ne peut laisser que rêveur. La même question se pose en ce qui concerne l'attitude du roi de Castille, Alphonse X, le savant ou le sage, roi de Castille et de Léon, entre 1252 et 1284, ainsi d'ailleurs que l'empereur germanique de 1257 à 1272, célèbre pour avoir comme savant fait dresser des tables alphonsines d'astronomie et comme poète pour ses cantiques à la Vierge Marie. En ses débuts, Alphonse X, fut très favorable aux Juifs dans les domaines économiques et culturels. Tout changea avec la Reconquista, qui certes préexista à son règne, puisqu'elle avait commencé avec la prise de Tolède en 1085 et de Séville en 1248, mais qui, par un jeu de diverses pressions, joua un rôle sur son changement d'attitude envers les Juifs de son royaume. Changement significatif qui lui fit prendre des mesures tout à fait restrictives à leur sujet, tant en économie qu'en droits sociaux, politiques et religieux. N'oublions pas non plus les grandes traques anti-juives qui eurent lieu en 1182 et plus tard 1306 et 1392. Mais disons que comme elles ne concernent plus la période historique qui, maintenant, là, tout de suite, nous intéresse, nous n'y entrerons pas encore et attendrons de pouvoir le faire en temps voulu, du moins pour celle des années 1306 et 1392. Le comportement du roi de Castille et de Léon, Alphonse X, est sans doute aucun révélateur de certaines pressions qui seront exercées par ailleurs. Alors sur ces pressions, eh bien, les historiens de la présence du judaïsme en Occident, étudiant celle-ci à l'époque médiévale, évoquent deux grandes périodes en ce qui concerne les rapports entre chrétiens et juifs. La chose fut différente avec les musulmans, puisqu'il y eut de bons rapports entre intellectuels musulmans et intellectuels juifs, que l'héritage culturel et religieux, Abraham, Moïse, etc., sémitique, unissait.
C'était un gringalet, pas vraiment laid, mais il était né à Paname. Tout ce qu'il connaissait, il disait qu'il savait causer aux dames. C'était pas un tocard, un ringard, un train boulevard. On l'appelait le Saint-Bernard, le Mozart du Pont des Arts. C'était pas un dragueur, un flambeur de fin de semaine. Il amenait nos petites sœurs un quart d'heure sur le bord de la Seine. Il avait pas eu de père, pas eu de mère, ni d'anniversaire. Il était né un soir, rue Rochechouart, près d'une poubelle. Il avait pas eu de chance, ni de vacances dans son enfance. Mais quand fallait de l'ambiance, sa seule présence, c'était Byzance. C'était un bon copain, il méritait bien cette chansonnette. Car il est mort de faim, un beau matin, rue de la Roquette. Ma chanson se termine, ça me déprime, c'est pas humain. Moi j'aime pas les chansons où les héros y meurent à la fin.
Mais justement, on va voir comment les pauvres juifs, et là je dis ça sans humour ni blague, hein, ont été obligés de partir de leur territoire. Bon, ils ont été présents en Occident, surtout dans les espaces territoriaux proches des rives de la mer Méditerranée, c'est logique, hein, et dès leur départ, forcés, après la destruction du Temple, alors il y a eu deux grands départs, la destruction du Temple en 70, de Jérusalem bien sûr, en 70 après Jésus-Christ, par la légion romaine commandée par Titus, fils de l'empereur Vespasien, qui régna donc de 69 à juin 79. Mais antérieurement à cela, les Juifs qui voyageaient beaucoup pour des raisons commerciales ou d'études intellectuelles eurent déjà des points de chute dans ces mêmes espaces géographiques méditerranéens, surtout dans les villes portuaires de bord de mer ou de fleuves et rivières. On connaît par exemple la présence à Alexandrie d'Égypte de nombreux intellectuels juifs dès sa construction dans les années 325 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand, empereur de Macédoine. Ils y retrouvèrent d'autres coreligionnaires qui avaient, ne l'oublions pas, refusé de quitter l'Égypte avec Moïse, en lequel ils n'avaient aucune confiance. ayant quelques raisons pour cela...
Bah, le mec, il leur disait, vous inquiétez pas, la mer va s'ouvrir, on va pouvoir passer.
Oui, mais il y a plus, il y a plus. Oui, car quelque part, hein, disons qu'ils soutenaient par leur crainte ce que le prêtre égyptien Manéthon, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a dévoilé, qui ne fait pas un personnage très net, dénonçant Moïse comme ayant été prêtre égyptien, quoique juif, de par ses origines, d'Héliopolis, sous le nom d'Ozarzif, l'accusant de diverses malhonnêtetés et de cruautés envers les Égyptiens. Manéthon était lui-même un prêtre égyptien, mais surtout archiviste et historien de la cour des pharaons, ce qui donne une certaine crédibilité à ses écrits historiques. Et donc, il avait accès à des documents troublants qui tendent à faire comprendre pourquoi les Juifs présents en Égypte furent loin d'être unanimes à vouloir quitter ce pays à la suite de Moïse vers 1250 avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, les ouvrages de l'archéologue juif moderne Finkelstein vont assez dans ce sens, hein. Bon, et voilà justement, je l'ai le dire, l'archéologie et l'égyptologie moderne prouvent que beaucoup de Juifs d'Égypte y vivaient fort bien et y occupaient même des postes importants dans la vie publique. Il a été découvert des loges, le mot est intéressant, de maîtres bâtisseurs, architectes, maîtres, etc., près de pyramides, qu'ils étaient chargés de faire construire, et de sérieuses études de documents tendent à prouver que si certains Juifs ont été employés comme esclaves à la construction des pyramides, d'autres le furent à titre d'architecte.
Ne me dites pas que Champollion, en découvrant la pierre de Rosette, a dit « Les hiéroglyphes, pour moi, c'est de l'hébreu, quand même. »
Il aurait pu le dire, mais... Et après, il l'a traduit. Mais enfin, bon, ne prêtons pas aux riches ce qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur prête. Hein? C'est un peu rose comme phrase, je reconnais. Alors, disons que Moïse n'eut aucune difficulté à persuader le peuple de partir avec lui. Et même si, beaucoup ne l'ont pas suivi, ce qui fait que d'ailleurs, des Juifs ont retrouvé plus tard à Alexandrie d'Égypte d'autres Juifs qui étaient restés depuis le départ de Moïse vers 1250. C'est quand même pas mal, hein. Donc, on se trouve là avec des données historiques livrées par l'archéologie et l'égyptologie moderne, complètement différentes des traditions jusque-là officiellement admises, que même l'auteur, le grand archéologue juif Israël Finkelstein et son collègue Ney Asher Silberman, co-auteur de la Bible dévoilée, les nouvelles révélations de l'archéologie, aux éditions Bayard Paris 2002, mettent en doute au chapitre 2, qu'ils ont d'ailleurs intitulé « L'Exode a-t-il eu lieu ?» et en posant la question page 80 et suivante, « Les marcheurs fantômes. » Pour eux, il y eut bien un exode, mais se référant aux recherches actuelles d'hommes comme celles de l'égyptologue Donald Redford, il ne lui donne pas l'importance numérique que lui attribue la tradition, chose que confirme d'ailleurs l'absence de mention d'exode massif de juifs par la stèle de Menephta, située précisément à la frontière de l'Égypte, qui évoque seulement des groupuscules de migrants, plus réservés dans sa version des faits et moins critique, peut-être, André-Marie Gérard, auteur du Dictionnaire encyclopédique de la Bible, aux éditions Robert Laffont, Paris 1989, dans son article Exode, admet les aspects discutables soulevés par les archéologues égyptologues modernes et leurs objections, mais argumente en faveur de perspectives de recherche respectant la vision théologique juive de ce récit biblique, dont à l'article Exode, ou bien Livre de l'Exode, il confirme que si le fait eut bien eu lieu à partir des années 1250 avant Jésus-Christ, le livre, à savoir Livre de l'Exode, quant à lui, fut rédigé principalement au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec des rajouts opérés durant les 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ, mais contenant, reconnaissons-le, des éléments du 9e siècle avant Jésus-Christ.
Ce qu'on appelle le Talmud ?
Par exemple. Très bien.
On va se retrouver une autre fois, Bernard Vacheroul, oui. Parce que je ne voudrais pas être manichéen, mais c'est une émission de radio, c'est soit on a le temps, soit on n'a pas le temps, et là, oui. On n'a pas le temps de continuer.
Bon, d'accord mon ami, alors à bientôt, à vous tous, au plaisir de vous revoir.
Au revoir.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacheroux, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.